Voyons lire deux versets. Un premier verset dans le premier livre de Samuel, au chapitre 9. Verset 27. Comme il descendait au bout de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis au jeune homme qu'il passe devant nous. » Et il passa. « Et toi, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » « Et toi, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 40. Et Jésus répondant lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » Une année va se terminer. Nous sommes à la fin de l'année 2025 et un frère de Belgique, chacun peut-être entendu son nom, Paul Finet, disait que dans la vie il y a des dates où on a besoin de faire le point avec notre Seigneur. Il y a la fin de l'année ou le début d'une année, il y a des anniversaires, et donc il y a des faits marquants dans chacune de nos vies. Et donc il est bon sans doute de faire le point de notre vie personnelle, de la vie de l'Assemblée, faire ce qu'on appelle un examen de conscience. Et il y a quelque temps, je lisais ce passage de 1 Samuel 9, verset 27. C'est Samuel qui dit à Saül, « Et toi, arrête-toi maintenant, un moment. » Et nous avons sans doute chacun, individuellement, en famille, et en assemblée, besoin de nous arrêter un moment et de faire le point avec notre Seigneur. Qu'en est-il de notre vie chrétienne? Est-ce que dans la vie de tous les jours, nous avons une attitude passive? Ou bien, est-ce que nous nous interrogeons quand nous traversons des épreuves ou des circonstances particulières? Et est-ce que nous cherchons à en tirer des leçons avec notre Seigneur? Dans Luc 7, voyons le Seigneur Jésus qui prend à part Simon et il lui dit, « J'ai quelque chose à te dire. » Est-ce que ces dernières semaines, ces derniers mois, cette année, est-ce que nous avons tiré des leçons, des épreuves que nous avons connues individuellement, en famille? Nous connaissons tous des épreuves. Et aussi en assemblée, ou bien est-ce que nous avons une attitude passive Est-ce que nous nous sommes rejetés sur le Seigneur lui-même? Et est-ce que nous avons écouté sa voix parce qu'il a quelque chose à nous dire? Non seulement individuellement, mais aussi collectivement. Et nous savons que dans la vie chrétienne, il y a un grand danger, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence qui est due à des habitudes. Nous avons des habitudes de vie. Nous nous levons le matin, nous avons tous des activités, que ce soit une activité professionnelle ou si nous sommes à la retraite, nous sommes actifs. Mais d'un point de vue spirituel, eh bien, nous pouvons aussi nous laisser gagner par une certaine indifférence. Et on peut aussi être négligent, on peut être gagné par la négligence. Et ce qui m'a frappé il y a quelque temps, c'est Samuel qui dit à Saül, « Bien, je te ferai entendre la parole de Dieu. Je te ferai entendre la parole de Dieu. » Au fond, il lui dit, et nous savons que Saül n'a pas écouté, Samuel n'a pas écouté la voix de l'Éternel, mais il lui a dit, « Mais arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi un moment. » Et je te ferai entendre la parole de Dieu. Il y a un verbe dans la parole de Dieu, c'est écouter. Et j'ai découvert aussi, un certain temps, que le verbe écouter est dit plus de 500 fois dans la parole de Dieu. Je crois 540 ou quelque chose comme ça. Et donc, Dieu nous dit de l'écouter. Dieu nous dit, voilà, arrête-toi un moment avec moi et écoute. Écoute ce que dit la parole de Dieu. N'aie pas une attitude passive ou indifférente par rapport à la parole de Dieu. Entends, mais écoute. Écoute, mais mets-la en pratique. Le cantique que nous avons chanté nous rappelle que nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur Jésus. Nous savons qu'il est toujours présent, notre soutien, il nous garde. Mais il y a l'autre côté des choses, c'est notre responsabilité. Et c'est quelque chose de normal de se confier en notre Sauveur. Mais il est aussi notre Seigneur. Et donc Samuel dit à Saül, mais et toi, arrête-toi maintenant, un moment là, avec moi. Et on peut se poser la question, est-ce que ces derniers jours nous avons attendu le Seigneur? Est-ce que nous attendons vraiment sa venue? Avons-nous ce désir ardent d'entendre son cri de commandement ou son cri de ralliement? Est-ce que nous y avons pensé cette semaine ou les jours qui avant? Et dans cette attente, est-ce que nous avons eu le désir de vivre dans sa communion, près de lui? Est-ce que nous avons eu le désir de le prier pour discerner sa volonté dans notre voie? Ou bien est-ce que nous sommes allés dans nos activités indifférents? Est-ce que nous sommes allés dans nos activités sans nous arrêter pour écouter sa voix. Et toi, arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. Dans la vie de l'Assemblée, est-ce que je suis une aide ou est-ce que je suis une entrave ? Voilà encore une parole que le Seigneur ou Dieu lui-même pourrait nous poser, me poser et poser à chacun de nous. Arrête-toi un moment. Est-ce que nous avons à cœur de régler nos affaires de famille avec le Seigneur ? Est-ce que nous sommes chacun à notre place ? L'époux, l'épouse, les enfants ? Est-ce que les enfants sont obéissants ? Est-ce que nous les élevons dans la crainte du Seigneur ? Et donc nous voyons, je te ferai entendre la parole de Dieu. Écoutez, j'ai quelque chose à te dire. Dans la parole de Dieu, il y a des croyants qui n'ont pas écouté la parole de Dieu et qui se sont éloignés. Ils se sont éloignés, mais certains, ils se sont éloignés sans retour. Pensons à Lot, nous pouvons penser à Orpa dans le livre de Ruth, nous pouvons penser à Saül ici qui n'a pas écouté, nous pensons à Démas dans la deuxième épître à Timothée qui est allé vers le monde. Nous pouvons penser aussi à Judas et à son sort terrible. Voilà, ce sont des personnes, ou des croyants, ou des personnes qui n'ont pas écouté, qui ne se sont pas arrêtées. Il y en a qui se sont éloignés un temps et qui sont revenus. Nous pouvons penser à l'histoire d'Abraham, par exemple. Nous pouvons penser à l'histoire d'Isaac, de Jacob. Ils sont partis un temps, ils n'ont pas écouté, et puis ils sont revenus. Et sans doute aussi, il y a eu des serviteurs, de grands serviteurs, qui avaient une position spéciale. Eh bien, pensons à David, qui n'a pas écouté et qui est tombé. Pensons à Élie le Tisbite aussi, qui pensait être seul. Nous pouvons penser à Jonas aussi. On a évoqué quelque chose ce matin. Jonas, il s'est éloigné et il est revenu. Et je voudrais lire simplement aussi dans Luc peut-être un autre passage. C'est dans Luc 17. Luc 17, versets 11 à 19, c'est l'histoire des 10 lépreux. Et il arriva, s'en allant à Jérusalem, il traversait la Samarie et la Galilée, et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent, et ils s'arrêtèrent de loin, et ils élevèrent la voix, disant, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et les voyant, il leur dit, « Allez, montrez-vous au sacrificateur. » Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent rendus nets. Or l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. À haute voix, il se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Et c'était un Samaritain. Et Jésus répondant, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été rendus nets ? Et les 9, où sont-ils ? Il ne s'en est point trouvé qu'ils soient revenus pour donner gloire à Dieu, si ce n'est cet étranger. Et il lui dit, lève-toi et t'en va, ta foi t'a guéri. » C'est une ce qui nous est relaté dans cet épisode de et dans ce miracle que le Seigneur avait opéré dans Luc 17, entre ces versets 11 à 19. Nous avons un miracle qui est remarquable, dit lépreux, qui crie au Seigneur Jésus, qui s'arrête de loin parce qu'ils avaient conscience de leur maladie, de leur lèpre. Et donc, ils ne voulaient pas s'approcher parce que ce n'était pas convenable de s'approcher. Et ils jettent ce cri, « Maître, aie pitié de nous ». Et nous voyons qu'au verset 14, il les voit et il leur dit, « Allez, montrez-vous au sacrificateur ». Et donc, ces lépreux ont cru la simple parole du Seigneur Jésus. Il leur a dit, eh bien, allez vers les sacrificateurs, et ils savaient que ce temps-là, pour aller se présenter devant les sacrificateurs, eh bien, il fallait être guéri, et ils ne pouvaient s'approcher du sacrificateur à ce moment-là pour vérifier la guérison de cette maladie qui parle du péché. Et nous voyons qu'un seul s'arrête, un Samaritain, et réfléchit. Voilà un homme, un Samaritain, qui était lépreux, qui réfléchit et qui vient à Jésus. Et je trouve qu'il y a quelque chose de terrible dans l'histoire des neuf lépreux. Ces neuf lépreux vont continuer leur chemin et reprendre leur vie dans les mêmes voies, sans exercice dans leurs âmes. Et un seul s'arrête, réfléchit, il a été guéri, il a reçu du bien de la part du Seigneur, et nous voyons que son cœur est touché, et pour ainsi dire, c'est un cœur qui est en activité, c'est un cœur qui est touché. Et il désire connaître celui qui l'a rendu net. Et cela le conduit à revenir sur ses pas. Nous sommes ici tous, nous étions des lépreux. Nous étions tous des lépreux. Mais sur 10 lépreux ici, il y en a 9 qui ont continué leur vie, comme si de rien n'était. Ils étaient heureux sans doute d'avoir été rendus nets, mais ils ont continué leurs activités comme par le passé. Et un seul, est venu vers le Seigneur Jésus pour lui rendre hommage, pour rendre hommage à Dieu, et pour s'approcher de lui, pour le connaître, celui qui l'avait rendu net. On peut se poser la question aujourd'hui aussi, dans la chrétienté, nous-mêmes, est-ce que nous faisons partie de ces 9 lépreux qui sont heureux d'avoir été rendus nets et puis qui continuent leurs activités comme si de rien n'était? Ou bien est-ce que nous sommes comme ce 10e, ce Samaritain qui vient à Jésus et qui désire le connaître? Simon, j'ai quelque chose à te dire. Qu'en est-il de nos cœurs aujourd'hui pour le Seigneur? Est-ce que nous continuons nos activités comme heureux d'être sauvés? Nous savons. Nous sommes sauvés d'un pays d'esclavage, nous sommes en route vers le ciel, nous le savons. Mais qu'en est-il de nos activités journalières? Est-ce que nous nous arrêtons un moment, arrête-toi un moment. Ou bien est-ce que nous connaissons cette intimité personnelle avec notre Seigneur? Avons-nous ce désir de le connaître plus, de le connaître davantage? Simon, j'ai quelque chose à te dire. Arrête-toi un moment. Et dans la vie de l'Assemblée, ensemble aussi, il y a des moments où il faut s'arrêter. Et il faut écouter, je te ferai entendre la parole de Dieu. Je te ferai entendre la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu, on la discute de plus en plus. On entend de temps en temps, oui, mais moi je pense autrement. Ah bon? Comme si on pouvait comprendre la parole de Dieu de tellement de façons que l'un va penser une chose et puis l'autre va penser le contraire. Pas du tout. La parole de Dieu, elle est permanente. Elle a la même autorité aujourd'hui. Il n'y a pas 36 interprétations. Il faut faire très attention, en particulier pour nos jeunes amis aussi, dans l'Assemblée, d'être soumis à la parole de Dieu. Encore juste un dernier verset. Dans Marc, c'est Marc 4. Marc 4, à propos de la parabole du semeur. Marc 4, il est dit, verset 2, « Et il leur enseignait beaucoup de choses par des paraboles. Et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, écoutez. » Et je crois que le terme grec, c'est « écouter », c'est important. C'est un écouter qui a une puissance particulière. Je crois le terme grec, je ne me souviens pas exactement, mais le Seigneur, quand il dit écoutez, c'est arrêtez-vous. Hein, c'est il faut vous arrêter, écoutez. Et donc il explique, voici un semeur sorti pour semer. Et donc la semence, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons à travers les exemples qui nous sont donnés par le Seigneur, que cette semence, elle peut rouler au bord du chemin, elle peut aussi tomber dans les épines, et puis aussi elle peut tomber dans la bonne terre, dans nos cœurs, et porter du fruit. Eh bien, à la fin de cette année, presque, peut-être que le Seigneur sera venu. Eh bien, il nous demande à chacun et aussi dans la vie de l'Assemblée à nous arrêter un moment et écouter ce qu'il a à nous dire, d'entendre la parole de Dieu. Mais pour l'écouter et l'entendre, il faut la lire, il ne faut pas oublier de la lire. Et que cette parole de Dieu porte du fruit dans nos cœurs, et que nos cœurs soient cette bonne terre, afin que nous la recevions.
Très rapidement, sans prolonger, parce que je pense qu'on a toutes et tous un peu faim, mais je voudrais juste revenir sur cette notion d'entendre et écouter que nous a partagé Michel. Un peu plus aussi, si vous me le permettez, chers frères et sœurs, pour notre jeunesse. C'est vrai que c'est pas cette notion de différence entre entendre et écouter n'est pas toujours facile à appréhender. On l'a déjà partagé un certain nombre de fois ici, mais je pense qu'il est bon d'y revenir. Sur cette notion d'être la capacité d'entendre ou celle d'écouter, si vous me permettez, chers jeunes, on va prendre un exemple concret. Si vous êtes, par exemple, amené à aller faire du shopping, je vais prendre les Rive Étoile, vous arrivez dans ce grand bâtiment, vous passez 2 heures, et si, en sortant du bâtiment, je vous interroge en vous demandant, mais tu as entendu comme musique. Tu me diras qu'il y avait de la musique, tu t'en souviens. De toute façon, dans tous ces centres commerciaux, il y a de la musique généralement assez, assez mouvementée. Ça augmente le rythme cardiaque, c'est marketing, ça permet de consommer un peu plus. Mais si je te demande, est-ce que tu te souviens des paroles ? Il y a fort probable que tu ne t'en souviennes pas du tout de ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu, tu n'as pas écouté. Tu n'as pas pris le temps de mémoriser les choses. C'est un exemple pour permettre de toucher un peu plus du doigt. Dans la notion d'entendre et d'écouter, dans la parole aussi, on va le lire tout à l'heure, très rapidement, il y a aussi cette notion d'entendre une voix et de reconnaître une voix. Et pour reconnaître une voix, il faut une certaine habitude. Je vais vous prendre un autre exemple que j'avais, on a peut-être déjà aussi pris, mais c'est celui de ce... Je vais prendre mon exemple concret, celui de se promener dans une foule. Là, on va tous rentrer. Bon, il pleut un peu, mais il y aura peut-être encore un peu de foule du fait du marché de Noël. Mais si j'appelle mon fils, je pense que il va reconnaître. Il va reconnaître la voix. Ou si mon fils m'appelle en criant « papa », je pense qu'à force d'entendre le timbre de sa voix, je vais le reconnaître. C'est une notion aussi d'habitude et de pratique. Et je voudrais, pour illustrer un peu cette pensée, lire un passage qu'on connaît très très bien, mais je pense qu'il est bon de le relire. C'est dans Jean au chapitre 10, hein, la notion du berger et des brebis. Jean au chapitre 10, et on peut lire à partir du verset 2, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix. » On retrouve cette notion d'écouter, et de la voix aussi, hein. Et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. Quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et on retrouve cette notion d'écoute, d'écouter, cette notion de voix et cette notion de reconnaître et de ne pas reconnaître. Reconnaissent la voix du berger, mais ne reconnaissent pas la voix des étrangers. On peut lire un peu plus loin, au verset 14, on en a fait mention tout à l'heure, hein, d'être connu aussi. « Moi, je suis le bon berger, et je connais les miens. » Et la note est importante, les miennes. Donc, « Moi, je suis le bon berger, et je connais les miens, les miennes, et je suis connu des miens, des miennes, comme le Père me connaît, et moi, je connais le Père. Et je mets ma vie pour les brebis. » Un peu plus loin aussi, au verset 27, un verset qu'on connaît bien aussi, « Mes brebis, on retrouve cette notion d'écoute, mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père, moi et le Père, nous sommes un. Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais. » Alors on peut se demander, chers jeunes, et pour nous toutes et tous d'ailleurs, comment on fait pour avoir cette habitude, hein, de reconnaître la voix du bon berger. Dans l'exemple que j'ai donné, on voit bien que c'est une notion de pratique, hein, hein, de reconnaître une voix, d'être capable de se dire, tiens, ça c'est la voix du berger, du bon berger, ça c'est la voix d'un étranger. Eh bien c'est, Michel en a parlé tout à l'heure, la lecture de la parole, c'est un des bons réflexes. Il y en a d'autres aussi, on a chanté, hein, « En Jésus, je peux me confier ben, ». Peut-être plier ses genoux tous les matins avant de partir à l'école ou dans nos activités pour remettre toute chose au Seigneur. La prière, très régulièrement, pour lui demander de nous conseiller, de nous diriger, de diriger nos pas, de nous accompagner et de nous laisser aller avec foi dans les demandes qu'on fait et qu'on réalise au quotidien. Et le faire très fréquemment, quelles que soient les choses, les grandes choses comme les petites choses. En espérant, un peu comme une prière aussi, on l'a chanté, hein. Aide-moi à en avoir confiance, qu'en toi seul, mon maître et mon seigneur. Et puis, c'est vrai que hein, pour le chanter, il faut, ou le chanter comme une prière, « À toi seul, j'ai appris à m'attendre. » Ça, c'est quelque chose qui vient avec une notion de pratique, de prendre l'habitude de remettre tout au Seigneur, tout ce qui concerne nos choix, tout ce qui concerne nos difficultés, tout ce qui concerne nos challenges, nos questionnements. Nos doutes, c'est de systématiquement tout lui remettre. Et fréquemment, très fréquemment, et quel que soit le moment. Et alors là, on crée une habitude, et pas une habitude, comment dirais-je, le faire forcément par habitude, non du tout. Le faire parce qu'on sait, et on regarde en arrière, et je reviens sur la notion de ce que Michel nous a présenté, cette notion de pause. Si on fait une pause aussi et qu'on observe, on est capable de faire une chose si on le fait en toute transparence devant le Seigneur. Si on regarde en arrière, on va compter tous les bienfaits. Et se rend compte toutes les fois où on a interrogé le Seigneur, toutes les fois où il a agi. Dans les petites choses comme dans les grandes choses. Mais pour voir que le Seigneur Jésus a agi dans les petites choses comme dans les grandes choses, il faut tout lui remettre, les petites comme les grandes. Et regarder en arrière pour voir toutes les fois où il a agi. Toutes les fois où il a accompagné, toutes les fois où il a répondu, toutes les fois où il a séché les larmes, toutes les fois où il a encouragé, et à sa façon. Parce que bien évidemment, bien souvent, on va se rendre compte, et ça si on demande à des frères et sœurs qui sont présents ici, qui sont plus âgés que nous, on va se rendre compte que bien souvent, ils nous le diront toutes et tous, j'en suis certain, bien souvent, ils se rendront compte que le Seigneur Jésus a répondu, mais à sa manière. Et bien souvent, bien au-delà de ce qu'on a demandé. Et je pense qu'on a tous fait cette expérience-là. Et c'est ça aussi la voix du bon berger, qu'on est capable de reconnaître et d'écouter. C'est qu'on a fait cette expérience. Et pour la faire, il faut être capable de lire la parole régulièrement, de se mettre à genoux et de lui remettre toute chose avec confiance. Et à partir de là, avec le temps, on va apprendre à reconnaître plus facilement la voix du bon berger. Et effet positif aussi de cette dynamique de remettre tout au Seigneur et de lui demander de nous parler, de nous guider, c'est que ça nous permet aussi de reconnaître la voix qui n'est pas celle du bon berger aussi, on en a besoin. Les enfants sont capables de reconnaître quelle est la voix de leur maman et de leur papa. Ils sont capables donc de dire, non, ça c'est pas la voix de mon père, c'est pas la voix de ma maman. Ça aussi c'est important. Surtout dans les circonstances qui sont les nôtres, dans tout ce qu'on est capable d'écouter ou d'entendre, notamment par les médias, les réseaux sociaux, vous entendez beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on écoute? Vous voyez ce que je veux dire, la différence? C'est, ok, on entend des choses, on voit des choses, ok, mais qu'est-ce qu'on écoute au final? Qu'est-ce qui pénètre dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de mettre dans nos oreilles? Et il est bon de revenir toujours, je trouve, à ce passage, je vais le relire pour terminer là-dessus. « Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mes brebis écoutent ma voix. »
Je peux juste rajouter une pensée. Il y a l'apprentissage d'entendre cette voix. Et puis il y a le lien. Je pense à un passage qu'on a vu à Nancy là, à l'étude récemment, Jean 20, Marie au tombeau, pleurant parce que le tombeau était vide et ne comprenait pas. Qu'est-ce qui nous est dit? Verset 14. Ayant dit cela, elle se tourna en arrière, elle voit Jésus qui était là, elle ne savait pas que ce fut Jésus. Elle voit Jésus et elle ne savait pas. Comment est-ce possible? Elle pleurait. Elle voyait, mais elle voyait quoi? Une silhouette. Et elle avait l'esprit rempli de « Mais où est-il ?» Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle ne reconnaît pas la voix. Parce que la question là elle est tellement remplie de sa douleur qu'elle n'entend au fond. Elle entend bien la question, mais elle n'entend pas la voix. Elle pensant que c'était le jardinier, elle pensant que ce qui tourne dans nos têtes, nos pensées, nos préoccupations qu'on essaye de porter par soi-même, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'ôterai. » Jésus lui dit « Marie ». Ah, c'est autre chose. Maintenant, le nom, son nom, les brebis, le berger qui appelle ses brebis par leur nom. Son nom résonne en sa tête. La voix qui dit ce nom résonne dans sa tête. Et alors, elle peut dire « Rabboni », ce qui veut dire « maître ». Oui, elle reconnaît la voix. Et quel est là le cœur? C'est pas forcément l'habitude, c'est pas forcément l'apprentissage de cette voix. C'est le lien qui l'unit à celui qui l'a délivré de sept démons. J'y repensais ces jours-ci. Je pense qu'aucun d'entre nous ne sait ce que c'est que la délivrance d'un démon. Elle a été délivrée de sept démons. Combien ça l'a marqué? Et combien c'est ça qui fait que cette voix du bon berger, à ce moment-là, peut trouver cet accès et effacer toutes les craintes, toutes les douleurs, tout ce qui pesait, tout ce qui accaparait, tout ce qui lui fermait au fond les yeux et les oreilles. Là maintenant, tout est derrière. Marie Rabboni. Et je pensais là, à l'instant, ces voix, ça va dans les deux sens. Des personnes qui ont vécu des choses douloureuses, terribles, dans des guerres, dans des circonstances de tout ordre. Il y a des voix qu'elles reconnaissent aussi et qui rappellent des mauvais souvenirs, qui éveillent la peur, qui éveillent la colère, d'autres sentiments. Mais la voix du bon berger, ce n'est pas ces voix-là. Et je dirais même, la voix du bon berger, elle efface, elle fait taire ces voix-là. Elle domine parce que Seigneur Jésus nous a aimés et s'est livré pour nous.